Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
À moins de 2 semaines des soldes d'été, Franck Ferrand nous propose de faire mieux connaissance aujourd'hui sur Europe 1 avec ces temples de la consommation que sont les grands magasins parisiens. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Nous nous cantonnerons à Paris effectivement, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de grands magasins en province.
Bien
évidemment.
Sûr.
Vous parlez de temples Julia, on pourrait parler aussi de vaisseaux amiraux. Ils ne sont plus que 4 aujourd'hui dans la capitale, le Bon Marché, le BHV, les Galeries Lafayette et le Printemps, puisque le 5e, la Samaritaine, a rejoint les magasins du Louvre. Du Fayel, la Belle Jardinière ou les magasins réunis dans la liste de ces paquebots naufragés du commerce. Alors, d'où viennent-ils ces grands magasins? Quand se sont-ils constitués? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir cet après-midi en compagnie de mon invité.
Votre invité qui est l'éditeur Nicolas Chaudin, amoureux du Paris d'autrefois.
Et oui, n'hésitez pas à lui poser vos questions sur le site d'Europe 1, europe1.fr, ou bien via un réseau social très connu, c'est comme ça qu'on dit, un réseau
exactement,
dont le nom commence par F.
Bleu.
J'en profite pour vous dire à quel point je suis sensible à tous vos messages si chaleureux, qu'ils nous parviennent par courrier, par mail ou tout simplement de vive voix, comme l'autre jour lors de notre déplacement à Arras. Un grand merci à tous pour votre fidélité.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Je vous disais donc qu'ils sont 4 grands vaisseaux à Paris à avoir survécu à la belle époque qui les avait vus naître. Ce sont, si on part du plus récent pour aller vers le plus ancien, les Galeries Lafayette, le Printemps, boulevard Haussmann, et le bazar de l'Hôtel de Ville, rue de Rivoli, le long de la place de l'Hôtel de Ville. Et puis, sur la rive gauche, le Bon Marché, où tout a commencé. Ce Bon Marché qui est donc le plus ancien grand magasin, non seulement de Paris ou de France, mais tout simplement du monde. Alors avant d'entrer dans la saga de chacun de ces lieux de légende, j'aimerais, comme j'ai l'habitude de le faire, resituer un petit peu le contexte de leur naissance. Car ces grands magasins ne sont évidemment pas sortis comme ça de rien. Sans diminuer le mérite de leurs fondateurs respectifs, il me paraît important de comprendre qu'ils sont le fruit de tout un système. Ils sont le produit de cette France du Second Empire qui accomplit, après l'Angleterre et même après l'Allemagne en vérité, qui accomplit sa révolution industrielle et donc commerciale. Révolution industrielle dit machinisme, donc du textile notamment en grande série et à moindre coût. On se met à changer plus souvent de vêtements. La mode se démocratise peu à peu. Elle n'est plus seulement l'apanage des très grands dames. Le chemin de fer vient permettre là-dessus d'acheminer les marchandises vers Paris, d'expédier vers les différentes régions. Un grand marché se constitue dans la capitale du fait d'une concentration démographique également très, très importante. Il faut savoir que de 1840 à 1860-65, la croissance économique est extrêmement vigoureuse. Elle fait penser à ce qu'on peut connaître en ce moment dans les pays d'Extrême-Orient. L'épargne est très grande, vous vous rappelez le mot de Guizot sous la monarchie de Juillet, enrichissez-vous. Eh bien oui, les Français à cette époque, si l'on prend les Français dans leur ensemble, parce qu'évidemment il y a de notables exceptions, mais les Français globalement s'enrichissent. Je vous parlais d'un essor démographique, notamment à Paris, ça permet de développer la clientèle, ça. Et donc la demande, bien entendu, mais ça permet aussi d'augmenter la main-d'œuvre. L'urbanisme de la ville également, et nous allons en parler longuement avec Nicolas Chaudin, rend tout ça plus facile. La ville devient lisible avec les travaux d'Haussmann. On se déplace assez facilement en omnibus. Attention, quand je parle d'omnibus, ce sont encore pour le moment des omnibus à traction animale. Et bien sûr, vous avez des gros percherons qui sont devant ce qui ressemble à nos tramways actuels. Alors, pendant tout le premier tiers du 19e siècle, on peut dire que la distribution, que le commerce était resté relativement archaïque. Ils étaient encore les héritiers de l'Ancien Régime. Vous savez, l'Ancien Régime avec ses corporations, avec son extrême spécialisation et toutes ces petites boutiques monovalentes. Selon ce que vous vouliez acheter, de la toile, de la serge ou du velours, vous n'alliez pas à l'époque chez le même marchand. Vous voyez, hein, tout ça était très très compartimenté. On n'avait pas ou presque pas de vitrine. Le marchand accédait seul à ses stocks, qui étaient faibles d'ailleurs, ce qui fait qu'on avait assez peu de choix. Il n'y avait pas de prix affiché. Vous imaginez le marchandage et le grand bazar que ça représentait, d'où le mot du reste. On faisait les prix généralement à la bobine, c'est-à-dire à la tête du client, hein, tout simplement. Et puis vous n'aviez pas de garantie après vos achats, ce qui fait que tout ça rendait les arnaques plus ou moins faciles, même si évidemment la société traditionnelle avait tendance à ne pas aimer l'arnaque. Je ne vais pas entrer dans ce détail, mais enfin là, ça nous entraînerait un peu loin. Bref, tout ça faisait un certain nombre de freins à l'achat et ça nous donnait une société qui consommait assez peu. Alors nous qui sommes dans une société d'ultra, de maxi-consommation, nous avons du mal à imaginer, mais à l'époque, on économisait tout, on recyclait, on réutilisait à l'infini. Il faut attendre 1825 pour voir fleurir à Paris les premiers magasins de nouveautés, comme on disait. Alors qu'est-ce que c'était que les nouveautés? Eh bien, c'était des articles textiles, essentiellement. Alors, on avait à peu près tout ce qu'il fallait pour l'habillement, y compris les dentelles, les fourrures, les souliers, les accessoires, la parfumerie. Tout ça se trouvait dans ces magasins de nouveautés qui commencent à avoir des grandes vitrines plus attrayantes, avec des rayons spécialisés dans lesquels on peut circuler. L'entrée de ces magasins est une entrée libre. On entre, on sort sans rien acheter si l'on veut. Les prix commencent à être affichés progressivement. Et puis, donc il n'y a plus de négociation, etc. Et puis surtout, on a un début de reprise, d'échange. Ces magasins de nouveautés sont donc une première grande révolution dans le commerce de détail. On peut dire que tous les fondateurs des grands magasins dont on va parler aujourd'hui ont été formés à cette école de la nouveauté. En 1829, le tout premier, c'est aux Trois Quartiers. Et puis en 1834, au coin de rue. Et puis entre les deux, en 1830, il y a le petit Saint-Thomas, rue du Bac. C'est là que se révèle l'excellent chef de rayon. Il est au rayon des châles. Il s'appelle Aristide Boussicot. C'est ce Boussicot qui va créer le bon marché.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Avec un récit qui s'intéresse maintenant à un personnage, Aristide Boussicot, Franck.
Ah, Aristide, c'est un joli prénom ça,
oui,
Aristide, on devrait en faire davantage. Boussicot, il était né en 1810, vous voyez, il est né un 14 juillet du reste, il est né dans le Perche, et tout jeune, il est entré comme commis dans la boutique de son père qui était chapelier, donc il connaît le commerce, il a même ça dans le sang, disons-le, il travaille assez tôt pour un colporteur, ce qui veut dire qu'il vend des casquettes sur les marchés. On est là en 1830, on est au moment de l'avènement de Louis-Philippe, vous voyez, Louis-Philippe c'est vraiment le grand basculement, vous savez, on nous bassine avec la révolution de 1789, mais il y a une autre grande révolution, c'est celle de 1830, où l'on entre dans une société qui ressemble davantage à la nôtre, qui est justement une société fondée sur le capitalisme, disons-le. 1835, voilà notre jeune homme, il est né en 10, il a 25 ans, le voilà à Paris, avec la tête débordant d'ambition et une certaine expérience qui lui a donné la logique du marché. Il entre comme vendeur dans un magasin de nouveautés de la rue du Bac, donc ce fameux petit Saint-Thomas dont je vous parlais. À l'époque, on ne parlait pas de vendeur, on disait il est calico. Vous savez, les jeunes vendeurs dans les magasins pour dames s'appelaient les calicots et les vendeuses s'appelaient des midinettes. C'était comme ça. Bon, d'où le terme une midinette. Alors, il devient bientôt second de rayon, puis chef de rayon, puis acheteur en chef, et il apprend comme ça toutes les ficelles du métier, il fait faire des économies à son patron, et il a bien sûr ses habitudes dans la rue du Bac. Notamment, il a l'habitude d'aller déjeuner, si j'ose dire, on dit dîner encore à l'époque, dans un bouillon traiteur qui est tenu par une ancienne blanchisseuse. Elle s'appelle Marguerite Guérin, elle est un tout petit peu plus jeune que lui, ils tombent très vite amoureux, ils vont se marier en 1835, ils auront un fils. Et là, dès qu'ils sont mariés, ils n'ont plus qu'une idée, évidemment, c'est de se mettre à leur compte. À 42 ans, 1852, avec 50 000 francs d'économie qu'il a réussi à faire, c'est pas mal du tout, Boussicot s'associe à un certain Justin Videau, qui est le propriétaire d'un petit magasin au coin de la rue du Bac et de la rue de Sèvres. Et ce petit magasin s'appelle Au Bon Marché, parce que tout y était bon marché à l'époque. Comme les choses changent. Il y a 4 rayons dans ce magasin, une douzaine d'employés, 450 000 francs de chiffre d'affaires annuel, ce qui est assez moyen pour l'époque. Or, Aristide est bourré d'idées. C'est lui qui va créer l'entrée libre dans les magasins, l'affichage du prix sur chaque article, l'exposition du stock. Pourquoi avoir un stock derrière et dire au client « Attendez-moi, je vais regarder ». D'un seul coup, il fait rentrer le stock dans la boutique et puis il donne des garanties aux clientes. Il va lancer 3 nouveautés formidables. D'abord, des petites marges. Au lieu de faire 50% de marge, il fait 20%. il peut même sur certaines parties du stock faire 13%, ce qui fait que ça rend les prix très attrayants évidemment. Il intéresse les vendeurs, vous savez c'est ce qu'on appelait la guelte, c'est-à-dire qu'il donne un fixe à ses vendeurs et puis le reste il les commissionne. Et puis surtout, il fait du client le roi. C'est lui, le Boussicot, qui invente la notion de client roi, ou plutôt de cliente reine. Beaucoup de courtoisie dans l'accueil, la cliente est satisfaite ou remboursée, on lui offre des rafraîchissements ou quand il fait froid, un café chaud. Et surtout, on la livre à domicile. À partir de 25 francs d'achat, la livraison est même gratuite. Qu'est-ce que vous voulez avec de telles méthodes? La fréquentation explose, le chiffre d'affaires s'envole.
Un extrait sur Europe 1 de la Gaîté Parisienne, Franck.
Alors je vous ai dit qu'au début, Boussicot faisait 450 000 francs de chiffre d'affaires. En 9 ans, il passe à 7 millions.
Ah, vous voyez,
son associé Vido est un peu dépassé. Il lui vend finalement ses parts pour 1,5 million. Et voilà, les Boussicot seuls à la tête de leur affaire. Il faut l'imaginer, Boussicot, c'est un grand bonhomme à l'allure ultra dynamique, avec les yeux perçants. Il a quelque chose d'un requin un peu comme ça, les yeux assez durs, grande barbe. Désormais, on peut dire qu'il est le roi du commerce parisien. Il va transformer le magasin de nouveautés en quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand, où l'on trouvera toutes sortes d'articles. Il lance le premier vrai grand magasin en 1869. Ce sera donc le Bon Marché, qu'il va étendre à tout le pâté de maison. L'hospice des petits ménages Saint-Vincent-de-Paul est complètement englobé. Les pâtés de maison voisins, tout ça va devenir le grand magasin lui-même. Les travaux s'achèveront seulement après la mort de Boussicot en 1887 pour donner le premier des grands magasins du monde. Un magasin qui fait 53 000 mètres carrés, 3 000 employés, 400 rayons, 123 millions de francs or de chiffre d'affaires en 1887. Bref, un monstre, une usine, une ville marchande dans la ville. Et puis alors, bien entendu, Boussicot est à la pointe de toutes les innovations architecturales avec Gustave Eiffel. Il veut étonner le monde. Vous savez, le magasin que décrit Émile Zola dans Au bonheur des dames, cette espèce de peinture hallucinée d'une consommation effrénée, eh bien c'est chez Boussicot qu'il faut aller en chercher évidemment le modèle.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Avec une émission consacrée aujourd'hui sur Europe 1 au grand magasin Franck.
Et alors je suis parti sur Boussicot, j'ai tendance à m'apesantir un peu sur lui, mais c'est intéressant ce personnage. Il invente la publicité, figurez-vous, quand je dis la publicité, dans la grande presse. Mais il fait aussi des affiches, des tracts qu'il fait imprimer. Il lance les premiers catalogues. Le premier c'est dès 1871, avec la possibilité d'acheter par correspondance, vous imaginez. C'est une sorte d'invention. Alors on y reviendra tout à l'heure, tout ça existe déjà en Angleterre, en tout cas pour partie, en Allemagne un petit peu, aux États-Unis beaucoup. Donc la France n'est pas le leader, mais en tout cas en France, tout ça arrive par Boussicot, c'est incontestable, et c'est lui qui lance quand même toutes les grandes nouveautés. Il fait des opérations spéciales, ce qui fait que le magasin devient une sorte de fête permanente. Vous imaginez la Parisienne des années 1880, telle qu'on l'imagine, avec son grand chapeau à plumes et son manchon. Évidemment, elle vient s'amuser en même temps qu'elle fait ses courses dans ce grand magasin du Bon Marché, qui bientôt va être rejoint par un certain nombre d'autres grandes enseignes. Alors on fait le mois du blanc, les soldes d'été, etc. Et chaque opération attire chez Boussicot jusqu'à 100 000 clients supplémentaires. Ce qu'il y a de plus remarquable dans le parcours de ce bonhomme, je devrais dire de ce couple, hein, parce qu'il ne faut pas oublier sa femme, Marguerite, qui joue un grand rôle, notamment après la mort de Boussicot en 77 et celle prématurée en 79 de leur fils unique. Je dis 77-79, 1879 bien entendu. C'est leur implication philanthropique également. Ils créent des caisses de secours pour les employés, une première caisse de retraite, un centre pour les orphelins de la société. À la mort de Marguerite, l'assistance publique ne sera pas oubliée, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce sera la naissance de l'hôpital Boussicot. Voyez qu'on est aussi dans toute ce qui peut être considéré comme un modèle économique et social. Évidemment, il ne faudrait pas s'imaginer que les Boussicot sont les seuls à développer ce genre de magasin. Il y en a d'autres au même moment ou juste après qui s'engouffrent dans la même voie. Chauchard, par exemple, qui était vendeur au pauvre diable en 54, apprenant que Perrer construit un hôtel de voyageurs place du Palais Royal, eh bien il se met à louer tout le bâtiment d'à côté. Il va créer les Galeries du Louvre qui dureront pendant plus d'un siècle. Il y a également, alors on pourrait citer par exemple le chef du rayon des soirées du Bon Marché qui s'appelle Jules Jaluzot. Lui, il se lance également dans l'aventure. Il a un profil assez différent. Lui, c'est un fils de notaire. Il a préparé Saint-Cyr. Il se sentait commerçant dans l'âme, un peu comme Boussicault, il est tombé amoureux d'une jeune femme qui était en l'occurrence une vendeuse, Augustine Figeac. Il l'épouse et il se trouve que là, la jeune fille était richement dotée. Ça lui permet d'acheter une boutique de nouveautés qui s'appelle Au Printemps. On n'a pas besoin que je vous raconte la suite, voyez ce que ça a pu devenir. Et puis, il faudrait parler de La Paix. Le magasin La Paix, c'est celui qui a spécifiquement servi de modèle au Bonheur des Dames de Zola. Et puis, les grands magasins réunis et du Fayel et le BHV. On revient sur l'ensemble de cette floraison du commerce en compagnie de Nicolas Chaudin dans un instant.
Un extrait maintenant sur Europe 1 de l'ouverture de la Gaîté Parisienne, Franck.
Bonjour Nicolas Chaudin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors on vous connaît comme éditeur de livres d'art. Vous êtes l'auteur également de cette très belle biographie d'Haussmann, préfet baron de la Seine, pour laquelle vous étiez déjà venu nous parler. Et puis j'ai entre les mains un ouvrage qui s'appelle Paris Céramique, les couleurs de la rue, que vous avez écrit avec Laurence Chaudin, Et qui est un très bel album sur toutes ces façades et tous ces intérieurs couverts de faïence, de carrelage, si j'ose dire, c'est moins joli évidemment à dire, et qu'on trouve à tous les coins de rue à Paris, et parfois on n'a pas tendance à les regarder. Nous y viendrons tout à l'heure, on en parlera. Avant tout ça, j'aimerais que nous revenions sur ce qu'il y a de stratégique dans l'implantation des premiers grands magasins. Parce que je parlais de Jaluzot par exemple, qui travaillait, il était dans un premier temps lui vendeur au Bon Marché. Il se rend bien compte que toute la rive gauche, là, tout le cœur du Paris bourgeois est déjà irrigué par le Bon Marché. Qu'est-ce qu'il fait? Il traverse la Seine, il va s'installer sur la rive droite. Et comme par hasard, dans ce quartier de l'Opéra et de Saint-Lazare, qui à l'époque est en pleine expansion.
En fait, l'implantation de ces grands magasins est déterminée de manière assez importante par tout simplement le plan d'extension de la ville et son plan de transformation par Haussmann. Ces grandes avenues qui sont dotées de transports en commun rapide, pour la première fois dans Paris, libérer des engorgements habituels.
Grandes avenues bien rectilignes, assez faciles en fait.
Permettent à la couseuse de Belleville de se rendre dans l'ouest parisien assez rapidement, alors qu'avant il fallait presque une demi-journée pour traverser la ville à pied. Donc effectivement, les grands magasins vont s'implanter là-bas. C'est le cas du Printemps notamment. Vous parliez de Jaluzot. Le Printemps s'installe exactement sur le chantier tout autour de la gare Saint-Lazare, qui préfigure l'extension vers l'ouest de la ville de Paris. Il y a également, on pourrait parler de Xavier Ruel et le BHV. Ruel était un colporteur. Il vendait sur son dos, si vous voulez, s'installait ça et là avec son parapluie chargé de percaline et de tissus à moindre coût. Et puis il s'est rendu compte que l'endroit où il vendait le mieux, c'était au carrefour de la rue des Archives et de la rue de Rivoli. Il a donc acheté une boutique là a grandi, à la suite d'une aventure tout à fait rocambolesque, et en a fait le BHV que nous connaissons tous aujourd'hui. Donc effectivement, l'implantation est stratégique. Il faut que les personnes puissent circuler à l'extérieur du magasin pour y affluer. Il faut aussi que les marchandises puissent y être acheminées.
Alors vous parliez de Xavier Ruel, j'ai parlé des Boussicots, de Jules Jaluzot. Il faudrait parler des Cognac Jay, évidemment, quand même.
Évidemment, et d'autant plus que Madame Jay, Marie-Louise Jay, a travaillé au Bon Marché avant de monter
elle
avec
aussi,
Ernest Cognac,
oui.
Le magasin de la Samaritaine. Vous parliez tout à l'heure de Bonheur des Dames d'Émile Zola, et vous disiez que le Bon Marché avait servi de modèle à Zola. C'était essentiellement Aristide Boussicault qui a servi de modèle à Émile Zola. L'octave Mouret du Bonheur des Dames n'est autre qu'Aristide
Boussicault.
Mais ce qui est intéressant à dire en relation avec la Samaritaine, c'est que Zola est l'ami d'un jeune architecte alors qui s'appelle Franz Jourdain. Et Jourdain, au moment où Zola écrit Au bonheur des dames, c'est-à-dire à la fin des années 70, début des années 80, Jourdain est en train de travailler pour Ernest Cognac et Marie-Louise Jay à l'édification de la nouvelle Samaritaine. Et donc, au moment où Jourdain s'interroge sur tout ce qui va devenir, tout ce qui va devenir les canons, si vous voulez, du grand magasin, eh bien, il transmet ces informations à Zola, qui a pris des carnets et des carnets de notes et consulte Jourdain pour essayer de faire un véritable plan de ce que serait le bonheur des dames. Et il y a véritablement un plan dessiné par Zola et Jourdain de ce qui sera, de ce qui doit être le bonheur des dames, et donc de ce qui sera la Samaritaine.
La clientèle est essentiellement féminine dans ces grands magasins de l'époque.
C'est la première clientèle visée, effectivement. Vous en avez parlé tout à l'heure, des magasins de nouveautés qui étaient essentiellement des magasins de détail, de tissus, d'étoffes
et de colifichets.
Voilà, exactement. Qui sont eux-mêmes d'ailleurs les descendants des marchandes de frivolité du XVIIIe siècle. Et effectivement, on vise une clientèle féminine parce que la condition de la femme à l'époque la laisse dans une certaine oisiveté et que c'est elle qui va faire finalement les emplettes. Aussi parce qu'on la juge plus sensible aux effets de la mode, qu'elle se promène avec des enfants qui vont très vite devenir une cible favorite de ces mercanties, parce que vous avez parlé de la philanthropie des Boussicaut, on pourrait d'ailleurs parler de la philanthropie des Cognac Jay, comme de celle d'ailleurs de Bader, l'un des fondateurs des Galeries Lafayette. Mais ce sont des mercanties, comme on disait à l'époque.
Ah oui,
leur
pas des
but,
rigolos, hein.
c'est de tondre le client. Enfin, ils font tout pour, sans trop de scrupules, du reste. Et donc, toutes les méthodes sont bonnes pour y parvenir.
On va venir justement, si vous le voulez, juste après la publicité, on va revenir un peu sur ce grand magasin qui n'existe plus, sur la Samaritaine, donc sur Ernest Cognac et sur Marie-Louise Jay, et vous allez voir que Madame Jay n'était pas très facile en affaires.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Un extrait sur Europe 1 du thème principal du film Les Marx Brothers au grand magasin, Franck.
Eh oui, et j'étais en train de revoir les images de ce film tellement drôle, tellement extraordinaire. Ça, pour le coup, ça donne vraiment envie d'aller voir le DVD. Nous sommes toujours en compagnie donc de Nicolas Chaudin, le grand spécialiste de l'histoire de Paris, et notamment de ce Paris du 19e qui a vu fleurir tous ces grands magasins. Alors nous avons vu que, dans le cas des Boussicaut, c'est une évidence, mais d'une façon générale, ces grandes entreprises étaient des entreprises familiales et elles étaient essentiellement et presque toujours le fruit d'une collaboration de couples. Et le couple le plus célèbre, le plus emblématique de tous ceux qu'on pourrait citer dans ce domaine, c'est évidemment celui que formait Ernest Cognac et Marie-Louise Jay, les Cognac Jay donc, ils sont nés sous la monarchie de Juillet. Lui, il est né dans l'île de Ré, à Saint-Martin-de-Ré, en 1839. Elle est née en Haute-Savoie. Ils mourront très tard, nonagénaires, dans les années 1920 seulement.
Et oui, ça conserve.
C'était des gens, alors ils avaient vraiment une sorte de passion du travail. Ils ont gagné des montagnes d'argent. Évidemment, on connaît la célèbre collection Cognac Jay, par exemple, qui a donné naissance au musée. Mais on a l'impression qu'ils travaillent moins pour l'argent que pour le travail lui-même. D'ailleurs, la devise de la Samaritaine, c'était Per Laborem, par le travail, et on surnommait Ernest Cognac le Per Laborem.
Non, effectivement, en fait, ils sont juste représentatifs de cette bourgeoisie conquérante de tout le 19e siècle. Qui a un peu de retard en France sur la bourgeoisie britannique ou la bourgeoisie allemande. Et dans ce siècle qui voit l'essor de l'industrie, qui voit le développement des transports, qui voit aussi une certaine démocratisation de la société, le travail, l'enrichissement, en fait, les vertus matérialistes sont, si vous voulez, la règle de l'ascension. On a beaucoup reproché à ces grands bourgeois tout frais sortis de terre d'être des exploiteurs, d'être d'horribles mercanties, comme je disais tout à l'heure. Ils ne se distinguent guère en cela des maîtres de forge et des grands industriels. Beaucoup d'entre eux, comme nous l'avons dit aussi, vont en quelque sorte atténuer ce caractère par des actions de bienfaisance, mais cette bienfaisance un rien paternaliste relève là encore d'une attitude assez commune.
Oui, voilà, oui.
Ils sont représentatifs de l'époque.
C'est l'esprit de l'époque, oui, vraiment.
Exactement. C'est une sorte de conquête éhontée du pouvoir par le travail, la conquête et l'enrichissement. Il n'y a pas du tout de problème moral qui est posé. D'abord, le prolétariat urbain apparaît à cette époque-là. Il le regarde d'abord comme une curiosité ennuyeuse, mais on ne se soucie pas tout de suite d'en régler le sort catastrophique même.
C'est Francis Jourdain, qui était le fils donc de Franz Jourdain, oui, l'architecte de la Samaritaine, qui a écrit un ouvrage sur la Samar, comme on disait. Et il se montre assez critique, évidemment, envers les cognac jets. Au profit de qui ce labeur sans répit, écrit-il ? Au profit de la Samar. Donc au profit des cognacs, seul maître ? Non. Au profit de l'idole. On ne peut en effet expliquer par un souci de lucre une passion aussi abstraite. Les cognacs n'avaient aucun besoin, ni même, si bizarre que cela paraisse, aucun véritable amour de l'argent. Ils ne savaient comment dépenser ce qu'ils gagnaient à la sueur de leur front, à la sueur de tous les fronts inclinés devant eux. Aucun luxe ne les tentait. À l'opulence dans l'oisiveté, ils eussent préféré de longs séjours misérablement passés au seul service de la Samar. L'argent gagné n'était pas à eux, mais à la Samar. Et cet argent, ils avaient une sorte de gêne à le lui prendre. Lui, c'est donc à elle, à la Samaritaine, une sorte de honte à le dépenser, donnant ainsi tous les signes d'une avarice que démentaient les millions, les dizaines de millions, les centaines de millions donnés à la philanthropie. Ces dons généreux étaient faits sans générosité. Ils n'étaient pas désintéressés, puisqu'ils augmentaient le prestige de la Samar et son rayonnement. Il y a quelque chose de démiurgique dans ces grands magasins.
Et ce que dit Francis Jourdain est en parfait écho avec les carnets de notes de Zola. Comme souvent chez Zola, ce sont ces carnets manuscrits qui sont les plus intéressants, puisqu'ils sont dépouillés de toute intrigue romanesque, parfois assez faible. Mais Zola dit exactement la même chose des Boussicaut. Un comportement assez frugal, des mises toujours très strictes, des mines assez tristes. Ce sont des personnages qui sont complètement adonnés à la croissance de leur entreprise. Madame est une taulière qui tient la caisse et monsieur veille à ce que ses employés ne se révoltent pas, ne fassent surtout pas grève, quand bien même celle-ci serait permise. Et effectivement, la plupart des fondations philanthropiques ont pour but de faciliter la vie des employés, mais dans le cadre de ce qu'ils pourront donner au magasin pour lequel ils travaillent.
Exactement.
Et c'est vrai.
Il y a quelque chose des aibatsu japonaises. Ouais. On est dans une optique comme ça, presque familiale et transgénérationnelle, au profit d'une grande enseigne.
Tout à fait. Mais ces gens-là ne sont pas drôles.
Oui.
Voilà. En fait, leur biographie
mais
est désespérante.
Mais les Japonais non plus, dont je parle.
Oui, oui. Non, peut-être.
Les choses soient claires.
Mais je veux dire par là que faire la biographie d'Aristide Boussicaut ou d'Ernest Cognac est un crève-cœur. Je veux dire, on s'ennuie à mourir à l'écrire et probablement à la lire. Ce qu'il y a d'important pour eux, c'est de construire des empires. Et ces empires survivent, pour la plupart, encore aujourd'hui. Et... leurs opérations philanthropiques, effectivement, ne sont pas un penchant sentimental intime. C'est un calcul, un savant calcul. Quant aux jets, quant au cognac jet, bon, évidemment, à la fin de leur vie, ils vont constituer une très belle collection d'art du 18e,
oui, oui,
qui va faire le fond du musée cognac jet, qui est aujourd'hui dans le Marais, rue Elsevier. Je pense que Madame Jay, elle, est assez passionnée par ce 18e siècle qui évoque toutes les grâces féminines de l'Ancien Régime. Lui n'en a que faire. D'ailleurs, il la laisse faire les courses elle-même auprès d'un antiquaire de Paris qui s'appelle Monsieur Jonas, dont on suppose qu'elle a été plus que sa cliente. Et d'ailleurs, on l'appelait Madame Jouy en Jonas. C'est vous dire que l'époque n'allait pas par quatre chemins pour qualifier les adultères. Et donc, c'est peut-être la seule, comment dirais-je, la seule aventure un peu romanesque que l'on peut mettre sur le compte
éclairer la vie de ce couple. Oui. En 1870, leur chiffre d'affaires au tout début donc était de 300 000 francs. Il devient 2 millions en 82, 17 millions en 1890. En 1825, 2 milliards de francs atteints, 18 millions de clients à l'année, 4 magasins qui couvrent 233 000 mètres carrés d'étage, un trust de 90 rayons, avec évidemment une discipline d'acier. Les heures de travail sont de 9h moins le quart du matin à 7h moins le quart du soir. 10 heures de présence sans sortir du magasin qui ne ferme même pas, même le dimanche. Et puis alors des tenues très strictes, hein, pour ce qui est des hommes, vêtements foncés, pas de col ni de chemise de couleur. Pour les femmes, pas de soie, pas de velours, pas de décolleté. Il faudrait surtout pas que la ménagère du faubourg, lorsqu'elle vient faire ses courses, se sentent snobés par la vendeuse. Nous avons parlé de tous ces magasins. Il y en a un dont on n'a quasiment pas dit un mot. On va y venir dans un instant. C'est évidemment les Galeries Lafayette.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Les grands magasins, c'était pas tant. On peut dire maintenant que le vrai Paris, ça n'est plus le boulevard, mais le printemps, la Samar, le Louvre et les galeries.
C'est pas des séduits fous.
Dans les magasins, Bach et Laverne sur Europe 1.
Vous pourriez avantageusement remplacer la chanteuse, je crois, Julia.
Je voulais essayer, mais je me suis pas autorisée à le faire.
C'est charmant, ces chansons de l'époque. Alors, les Galeries Lafayette, je disais juste avant qu'on quitte, là, les Galeries Lafayette, c'est un petit peu le petit dernier. C'est le bébé de Théophile Bader. Qui est né lui aussi dans le Sérail, disons-le, mais qui a eu une idée. Il est alsacien, Bader, comme son nom l'indique, et il conçoit d'emblée les Galeries Lafayette comme une sorte de bazar à l'oriental. Il veut que la cliente ait le sentiment d'être dans les mille et une nuits, en quelque sorte, et c'est d'ailleurs l'indication qu'il donne à ses architectes Chedan et Chanu. Il va falloir qu'ils installent de la mosaïque d'or un peu partout.
De la mosaïque, du verre, de la vitrerie un peu partout, parce que le but du grand magasin, dans son architecture, dans sa conception, un peu comme ça, de basilique, hein, est d'exciter le chatoiement des marchandises, de flatter le teint des dames qui viennent les convoiter. Et donc, il faut toute une mise en scène pour permettre, d'une part, aux clients de déambuler, de toucher, voire d'essayer assez tôt, hein. Tout ça sans être à la merci d'une arpette regardante. Il faut aussi que toutes ces étoffes et toutes ces bains bleuteries que l'on met à la disposition du public soient éclairées sous un jour très 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 favorable. Et effectivement, Chedan, qui est un des architectes du métal et du verre, un des architectes du tournant des 19e et 20e siècles, va créer une espèce de conception comme ça très basilicale, avec une grande verrière centrale dont on fête le centenaire cette année en grande pompe aux Galeries Lafayette. Ce qu'on oublie aussi souvent de dire, c'est que des artistes de l'art nouveau vont contribuer aussi à la magnificence de ce temple, notamment Louis Majorel,
oui,
qui va
sûr,
concevoir
oui.
des balustrades et surtout la rampe du grand escalier, malheureusement aujourd'hui démolie, mais dont le musée de l'école de Nancy conserve quelques fragments. Et tout ça a pour but de créer un mouvement concentrique, c'est-à-dire que d'abord, il faut créer une espèce d'aspiration du public vers le hall central, à partir de quoi un savant jeu d'escalier et d'allées répartit la clientèle à travers des stands savamment distribués.
Alors j'ai le souvenir que quand on se promène chez Harrods au rez-de-chaussée dans les rayons alimentation, on est au milieu d'un temple de la céramique. On n'a pas la même chose à Paris.
Alors on a la Samaritaine de Franz Jourdain,
oui.
qui a été à l'intérieur extrêmement ravagée, d'ailleurs maintenant qui a complètement disparu, mais dont les façades extérieures conservent de magnifiques panneaux de céramique que Franz Jourdain a inséré dans sa structure métallique. La céramique, par ses brillances, par la manière dont elle capte la lumière des lustres, était un des instruments, avec le verre, la pâte de verre, la vitre, étaient des matériaux favoris de ses concepteurs, parmi lesquels des architectes absolument extraordinaires comme Paul Sédy, Henri Sauvage, Georges Vibault, qui est l'architecte du casino de Deauville. Mm-hmm. Bah, vous voyez quand même que construire un grand magasin était une grande affaire, et pour un architecte, l'occasion de pondre son chef-d'œuvre. Ce n'était pas du tout une construction secondaire dans une carrière.
Au contraire,
c'est
oui,
un des
sûr.
Nouveaux monuments des capitales, comme les gares ont été des nouveaux monuments,
exactement.
Comme les mairies d'arrondissement vont le devenir à Paris.
Ce sont les chefs-d'œuvre de l'urbanisme du 19e.
Exactement, ce sont les cathédrales du commerce, disait Zola, mais ce sont de véritables cathédrales de fer et de verre, oui.
Alors il y a dans ce livre que je suis en train de feuilleter avec ravissement, il y a des exemples très spectaculaires de façades entières couvertes de céramiques multicolores qui sont là sous nos yeux dans les rues de Paris et qu'on a parfois tendance à oublier.
Et à démolir même.
Oui, il y a des démolières,
parce que quand
pire,
elles tombent, elles sont très difficiles à remplacer. La plupart ne se construisent pas. Mais enfin, je parlais d'Henri Sauvage tout à l'heure, qui a contribué à l'édification de la Samaritaine. Henri Sauvage est très connu à Paris pour les immeubles en gradin, en céramique bleue et blanche qu'on voit à rue Vavin ou dans le 17e arrondissement. Donc, effectivement, ça a été un usage. Paul Cédi, qui est l'un des architectes du printemps, était un des grands promoteurs de l'usage de la céramique en architecture. Donc, grâce à ces architectes, les grands magasins étaient une espèce de symphonie de couleurs, un peu criarde, qui faisait ricaner évidemment toutes les dames des nobles faubourgs, mais qui attirait une bourgeoisie en quête d'identité, et d'une certaine manière en quête d'identité culturelle. Voilà.
Alors cet ouvrage, il a déjà un certain temps. Vous l'aviez sorti à la fin du XXe siècle.
À la fin du XXe siècle, oui. Parce que je suis à cheval sur le siècle.
Oui, moi aussi, je rassure.
Pas seulement sur les principes. Donc, il est sorti en 98. Mais voilà, je ne sais pas si on le trouve encore du reste, mais ça avait été très amusant à faire. Je l'avais fait avec ma femme. On avait poussé toutes les portes cochères pour trouver des grands panneaux de céramique dans les immeubles. Et on a trouvé vraiment des chefs-d'œuvre. Oui.
Alors, c'est pour ceux qui peuvent le trouver, se le procurer, ce Paris céramique, Les couleurs de la rue est tout simplement magnifique, édité par Paris Musée, de Laurence et Nicolas Chaudin. Et puis, Nicolas Chaudin, vous allez bientôt voir deux de vos ouvrages édités et réédités en poche. Alors, la célèbre biographie d'Haussmann, Haussmann, Georges Eugène, préfet baron de la Seine, ça sort chez Babel,
oui,
à la rentrée.
Les poches d'Actes Sud, oui.
Et puis, également, au livre de poche va sortir à la rentrée le Dictionnaire historique de Paris, dont on peut dire que vous êtes un des principaux contributeurs.
Merci de le dire.
Mais c'est la vérité. Vous viendrez reparler tout ça, si vous le voulez, à la rentrée.
Très
Paris
volontiers.
Est une source inépuisable d'histoire. Et j'ai envie de dire, lorsqu'on se promène en sortant des studios, ensuite on a l'impression de voir tout ça revivre et chatoyer sous nos yeux. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à bien ouvrir les yeux lorsqu'ils se promènent dans Paris ou quand ils se promènent d'une façon plus générale, n'importe où.